Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Nous sommes à Nantes pour le rendez-vous annuel des géopolitiques de Nantes, co-organisé par l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Alors que se tient l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York et à quelques semaines des élections de mi-mandat aux États-Unis, regarde sur Donald Trump et le monde. Le président américain est arrivé au pouvoir en janvier 2017 en disant que le monde était dans un grand désordre et que la politique étrangère de l'Amérique était un échec. Sa vision de l'America First sous-entendait que ce n'était plus à l'Amérique de mettre de l'ordre, voué désormais à s'occuper de ses propres intérêts, qu'il était temps pour les ennemis de l'Amérique de la craindre, pour ses alliés de payer leur part et que le pays se devait d'être égoïste. En politique étrangère, il a fait exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait, retrait de l'accord de Paris, de l'accord sur le nucléaire iranien, transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, durcissement avec la Chine, Israël et l'Arabie Saoudite sont aux anges, le reste du monde un peu moins. Experts et historiens s'en tiennent pour l'instant à rappeler que lorsque les États-Unis ont au siècle dernier appliqué des politiques isolationnistes et unilatéralistes, le pays a contribué à semer les graines de la Seconde Guerre mondiale. Un désastre économique et militaire est-il à prévoir? Trump menace-t-il la paix mondiale? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Marie-Cécile Nave, chercheuse associée à l'IRIS, auteure de plusieurs livres sur les États-Unis, dont Trump, la revanche de l'homme blanc, paru aux éditions textuelles, et géopolitique des États-Unis aux éditions Erol. Bonjour.
Bonjour.
François Clémenceau, rédacteur en chef des pages internationales du Journal du Dimanche, éditorialiste de politique étrangère sur Europe 1. Son dernier ouvrage, Hillary Clinton de A à Z aux éditions du Rocher, et auteur du blog Trump Power. Bonjour.
Bonjour.
Et Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, enseignant à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8, auteur de nombreux ouvrages, dont le grand livre de la géopolitique aux éditions Erol et l'Atlas des relations internationales chez Armand Collin. Bonjour.
Bonjour.
À l'ONU cette semaine, les Américains se sont vus infliger une humiliation de voir leur président être moqué ou tout au moins porté en dérision, et plus grave de l'avis même de la presse américaine. Avec son voyage au siège de l'ONU à New York, Donald Trump a mis l'Amérique sur une pente encore plus dangereuse en cherchant le conflit avec certaines puissances et en ignorant les menaces persistantes de certains adversaires comme la Russie. À l'occasion de la réunion du Conseil de sécurité sur la prévention de la prolifération d'armes chimiques, biologiques et nucléaires, les deux pays, particulièrement dans le collimateur de Trump, la Chine et l'Iran. Pascal Boniface, Trump veut-il la guerre avec l'Iran ?
Non, pas une guerre au sens militaire du terme, mais une guerre économique qu'il livre à l'Iran, effectivement. On peut dire qu'il y a une sorte de guerre bilatérale économique entre la Chine et les États-Unis, et qu'il y a une guerre unilatérale des États-Unis envers l'Iran, parce que ce que le plan presque officiellement admis de Trump, c'est d'étouffer économiquement l'Iran en menaçant de sanctions les compagnies étrangères non américaines qui continueraient de commercer avec l'Iran, pour que dans une sorte de chaos destructeur en Iran, la population se révolte contre le régime en ayant assez des restrictions qui ne manqueraient pas de survenir du fait de cette guerre économique. Et donc là, il y a un plan qui est même carrément sur la table. Est-ce qu'il peut réussir? C'est douteux, parce qu'il peut certainement réussir à amener en Iran encore les plus durs, parce qu'aujourd'hui, ce sont ceux qui sont favorables avec un dialogue avec l'Occident qui sont mis sur la sellette. On leur dit qu'ils ont échoué. Et donc, il y a plutôt un durcissement de l'Iran. Et puis, on voit très bien que cette théorie du chaos destructeur où par le chaos on amène un régime démocratique plus ouvert n'a pas vraiment marché dans les pays où on a voulu le faire, comme en Irak, et donc il est douteux. Sur le plan avec la Chine, effectivement, c'est un bras de fer où Trump veut que la Chine se mette à genoux et accepte de limiter ses exportations envers les États-Unis. Sauf que s'il y a autant d'exportations, c'est également parce que les États-Unis en ont besoin et qu'il y a une double dépendance économique entre la Chine et les États-Unis. La Chine a besoin du marché américain pour asseoir sa légitimité, le régime, pour asseoir sa légitimité politique qui est basée sur la croissance de l'économie. Mais en même temps, les Américains ont besoin des produits chinois pour payer des produits moins chers et pour avoir ce qu'ils ne produisent plus chez eux.
Alors, pas forcément de guerre avec l'Iran, en tout cas une volonté peut-être de Washington d'un changement de régime à Téhéran, François Clémenceau et Marie-Cécile Nave. Et pour la Chine, évidemment, la hache de guerre, elle est déterrée. Alors, il y a ce piège de Thucydide qu'on évoque très souvent pour parler de cette puissance montante qui ne peut qu'entrer en conflit avec la puissance établie. Il est question évidemment de la Chine et des États-Unis. François Clémenceau.
Oui, je dirais que sur l'Iran comme sur la Chine, on voit bien que c'est pas essentiellement une question de doctrine de la part de Donald Trump ou de son équipe. Il n'y a pas d'idéologie très précise derrière tout ça. Mais il y a quand même sur les deux terrains, d'abord la volonté de défaire la politique de Barack Obama. En ce sens, c'est une promesse qu'il a faite à ses électeurs de défaire pièce par pièce la plupart des grands acquis de Barack Obama. Barack Obama avait une politique asiatique, Trump l'a défait. Barack Obama avait signé les accords de Vienne avec ses grands partenaires occidentaux et russes et chinois. Trump le défait, le déchire. Et en ce sens, donc, Trump donne des gages, finalement, aux électeurs qui l'ont élu, à qui il avait promis, effectivement, de déchirer ce document. Troisièmement, par ces gestes-là, en tout cas en ce qui concerne l'Iran, il donne également des gages à ses deux seuls alliés au Moyen-Orient, que sont l'Arabie Saoudite et Israël. Et enfin, on l'oublie souvent, c'est un peu moins vrai pour la Chine, mais vous allez voir que ça a une résonance tout de même, il y a aussi une ambition derrière économique des États-Unis. Faire souffrir l'Iran, c'est faire souffrir l'Iran sur la seule, finalement, richesse qu'elle a aujourd'hui, ce sont ses hydrocarbures. Or, aujourd'hui, les États-Unis sont devenus le premier producteur d'hydrocarbures au monde et aimeraient bien pouvoir, à l'exportation, devenir un champion de l'exportation. Or, si l'Iran n'est pas sanctionné, n'est pas affaibli sur son industrie pétrolière et gazière, eh bien, ces efforts-là ne pourront pas payer. Avec la Chine, il y a, en dehors, encore une fois, de toute idéologie, la volonté d'assurer une forme d'impérium. Nous sommes la première puissance du monde, y compris sur le plan militaire, et nous n'accepterons pas de voir la Chine, finalement, ne plus respecter les règles du commerce mondial. Donc, cette guerre se fait pour l'instant sur le commerce. Et pour l'instant, on a du mal à imaginer comment il pourrait y avoir un gagnant dans cette guerre-là. Ça fait du mal aux industriels, ça fait du mal à toutes les entreprises, y compris américaines, qui vivent de ce commerce. Et donc, on voit que c'est plus une question de posture, d'affirmation finalement de la force des États-Unis. America is back, America is great. Et en même temps, c'est une vision de court terme pour l'Iran comme pour la Chine. On voit mal comment pourrait se dessiner, j'allais dire, une vision à long terme des États-Unis dans le monde à travers ces deux ennemis-là qu'elle s'est désignée.
Marie-Cécile Nave.
Oui, pour Trump, le monde se décompose entre ceux qui permettent aux États-Unis de prospérer économiquement et les autres. Et il se décompose aussi entre ceux qui lui permettent d'apparaître comme un homme fort et puissant, capable de taper du poing sur la table, et puis les autres pays. Il ne faut pas oublier que Trump est dans une stratégie de personal branding, de promotion de la marque Trump, promotion de la marque Amérique aussi, avec une confusion un peu entre les deux. Et ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qu'il faut prendre au sérieux, même s'il peut avoir des discours qui sont pour partie incantatoires et pour d'autres plus performatifs, hein, c'est-à-dire qui produisent concrètement des effets sur le réel. Eh bien, il ne faut pas tomber dans le piège comme on a pu souvent le faire depuis la campagne de 2015-2016, de ne pas prendre ce candidat puis ce président au sérieux. Cette semaine à l'ONU, il a été moqué. Les gens ont ri quand il a dit « c'est moi qui ai accompli le plus de choses dans l'histoire des présidents américains ». Après, il a démenti, il a dit « les gens ne riaient pas contre moi, ils riaient avec moi ». Et ça fait encore plus rire. Mais au-delà de cette anecdote, c'est quelqu'un qu'il faut prendre au sérieux et qui a une vision du monde extrêmement binaire. Il y a d'un côté les perdants, d'un autre côté les gagnants, d'un côté les gens charmants, d'un autre côté les gens horribles. Et il utilise ces mots « lovely »,« charming »,« horrible »,« great », bad, very bad, 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 avec des majuscules dans les tweets. Mais certains adversaires ou certains même ennemis du président Trump, comme le président iranien ou le président nord-coréen, peuvent passer d'une catégorie à l'autre en étant un jour horrible et le lendemain charmant. Donc ça déstabilise un petit peu les interlocuteurs des États-Unis. Mais je crois qu'au bout de presque 2 ans de mandat de Trump, un certain nombre de pays étrangers ou de dirigeants étrangers sont capables de faire la part des choses dans ce qu'il dit. On sait qu'il y a une partie vraiment qui reste de l'ordre de la rhétorique, mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas prendre au sérieux et qui est dans une sorte de leadership très old school, très viriliste, très... comme si les États-Unis voulaient commander le monde et revenir à une époque qui est sans doute révolue aux yeux des autres puissances étrangères et dans un contexte qui est multilatéral ou avec des équilibres régionaux très différents des années 50 par exemple.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Alors, avant de parler de la Russie, peut-être intéressant de s'arrêter un tout petit peu sur la personnalité de Donald Trump. Marie-Cécile Nave le disait à l'instant, il faut le prendre au sérieux. Il est vrai, Pascal Boniface, qu'on sait maintenant que Trump sait ce qu'il dit et fait ce qu'il menace de faire. L'humiliation tout de même de cette semaine devant les caméras du monde de Donald Trump à l'ONU.
Je ne pense pas que ceux qui ont voté pour lui aient regardé le discours de Trump à l'ONU et aient vu qu'on se moque de lui. Par contre, ses adversaires sont renforcés dans la conviction qu'il dessert les intérêts américains, qu'il donne une très mauvaise image de les États-Unis à l'étranger, qu'il est en train de perdre du crédit et de faire perdre à son pays du crédit auprès des étrangers. Mais lui, il ne vise pas cette partie-là de l'Amérique, il vise ses électeurs. Et lorsqu'il parle à la tribune de l'ONU, il s'adresse à ses électeurs, notamment en tapant sur l'Iran, ce qui est très populaire, et en essayant de mobiliser ses électeurs. Les élections à mi-mandat vont se jouer sur la mobilisation ou la non-mobilisation des camps, et le fait de taper sur l'Iran va faire que ceux qui votent pour lui ou taper sur la Chine, on dit ok, vont faire que les gens disent oui, comme ça la Chine va arrêter de nous voler des emplois, et oui, comme ça on va se venger de l'Iran qui nous a humiliés en 79 et qui veut détruire Israël, etc. Et donc en fait, je rebondis sur les propos de Marie-Cécile Nave, c'est-à-dire qu'on a toujours le sentiment, comme dans les milieux, disons, des médias universitaires, on n'a pas une très bonne image de Trump, on pense que il se dessert, mais en fait il se renforce à chaque fois quand il parle ainsi à ses électeurs. Il y a vraiment deux Amériques tout à fait opposés, qui sont dans le même pays et sur des planètes différentes à la fois. Et donc, pour l'instant, Trump n'a pas perdu le soutien de ceux qui l'ont permis son élection et qui vont peut-être, on ne peut pas ne pas l'envisager, sa réélection en 2020. Et donc, il faut effectivement bien voir que Trump n'est pas sans qualité, on ne devient pas président des États-Unis sans quelques qualités, et que même si nous-mêmes, peut-être, on n'apprécie pas tellement celle-ci, elle est appréciée par ses électeurs, et elles vont peut-être lui permettre de ne pas perdre les élections à mi-mandat, et voire même de gagner une réélection en 2020.
François Clémenceau.
C'est tout à fait juste de dire et de rappeler de façon très forte que Trump fait la politique de ses électeurs, mais qui sont ses électeurs ? C'est quand même, qu'on le veuille ou non, depuis janvier 2017, un noyau dur qui est composé, ça dépend un peu des questions que l'on pose dans les enquêtes d'opinion, mais de 30, 35, 40% des électeurs américains qui le soutiennent aujourd'hui, et plutôt de façon inconditionnelle, mais ça ne fait pas une majorité. Ça fait une majorité peut-être au sein du collège électoral lorsqu'une présidentielle arrive par le jeu des États, où finalement on vote dans chacun des 50 États, mais ça ne fait pas une politique majoritaire dans l'opinion. Et rappeler aujourd'hui, même si encore une fois ça a sans doute été une mauvaise candidate, mais qu'Hillary Clinton a remporté le suffrage populaire aux États-Unis de 3 millions de voix, montre qu'il y a un décalage entre ce soutien d'un noyau dur très fort des Trumpistes, avec une idéologie pour le coup venue du Tea Party et alimentée par Fox News, et qui repose sur des millions de gens dont on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas d'éducation supérieure. Ce sont des gens qui ont des idées simples, qui ont des convictions très fortes, qui vivent sur ce sentiment, cette culture que on vit dans la résilience, on vit dans la confrontation, dans l'affrontement, dans le repli sur soi, parce qu'il faut défendre ses valeurs chez soi, dans son quartier. Mais est-ce que ça, c'est un levain pour une politique étrangère internationale qui doit obéir à d'autres principes? C'est ça la vraie question. Or, quand on affronte le monde du réel, la communauté internationale, les conflits, la géopolitique, on ne peut pas être purement dans la démagogie ou dans l'instinct. Or, tous ceux qui l'ont approché disent ça de lui. C'est un homme qui fonctionne à l'instinct. Est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais perdre? Est-ce que ça va me rendre plus fort la semaine prochaine? Sans qu'il y ait vraiment une vision à long terme, vraiment au sens stratégique du terme. Et pour un président, je termine par là, qui a changé 3 fois de conseiller à la sécurité nationale depuis le mois de janvier 2017, qui a changé 2 fois de ministre des Affaires étrangères, qui a changé 3 fois de chef des services de renseignement, ça vous montre à quel point il n'y a pas, au jour d'aujourd'hui, une politique étrangère américaine. Il y a ce que décide Trump, parfois seul, parfois avec des conseillers qui tentent de le calmer, de le calamiser, de le renforcer dans certaines directions et de l'affaiblir dans d'autres, mais il n'y a pas, à mon sens, une stratégie, une pensée, une doctrine de politique étrangère américaine. Et c'est ce qui rend peut-être Donald Trump plus imprévisible, on l'a vu, mais surtout parfois peut-être plus dangereux.
En tout cas, si on devait résumer son caractère, Marie-Cécile Nave, c'est une obsession à gagner d'un côté, une incapacité à accepter un équilibre du pouvoir. François Clémenceau le disait, il n'est pas animé par des convictions. Qu'est-ce que l'on peut dire finalement ? C'est un président fort ou un président faible, Donald Trump ? Et est-ce important ? Mais en tout cas, ça n'est pas sans danger.
Alors lui aimerait bien et se définit toujours comme un président fort parce que l'archétype du président faible, c'est son prédécesseur, qui d'ailleurs a été décrit comme ça pendant 8 ans par les Républicains. Président faible, le président qui se couche, c'était ça qu'on entendait, un président presque féminin, dans une acception effectivement très négative et très stéréotypée du terme, alors que Trump voudrait représenter un pouvoir dur, un hard power, et d'ailleurs il défend beaucoup dans les relations avec les partenaires et les adversaires sur la scène internationale une géopolitique très axée sur le hard power, avec une augmentation considérable du budget de la défense, la volonté de vendre toujours plus d'armes à des partenaires comme l'Arabie Saoudite ou en Asie, également en faisant monter la menace Corée du Nord, et puis en négligeant d'autres formes de rapports internationaux qui peuvent conduire à des conflits, qui peuvent conduire à des guerres et alimenter le terrorisme, comme le fait de se retirer de l'accord de Paris sur le climat. On sait que le changement climatique nourrit aussi les guerres, les famines. On sait que Daesh capte l'accès à l'eau dans certaines régions et permet d'alimenter certains conflits. Le fait de se retirer de l'UNESCO, le fait de baisser considérablement l'aide au développement, notamment en Afrique, c'est aussi une manière d'encourager ou d'alimenter la guerre à court et à moyen terme. Donc il faut prendre ça aussi en compte dans la manière dont on envisage Trump. Mais lui se voit comme un président fort, mais au sens, encore une fois, je pense, démodé du terme, ancien, du terme pas... comme on pourrait l'entendre aujourd'hui ou comme d'autres peut-être dirigeants du monde l'entendent.
Alors je voulais qu'on parle de la Russie dans cette première partie de l'émission, mais on n'aura pas le temps, donc je ne vais pas vous lancer dessus, Pascal Boniface. En revanche, un commentaire peut-être sur le président fort ou faible qu'est Donald Trump sur deux minutes.
Il a une sorte de nostalgie d'un paradis perdu qui serait les années 60 où les États-Unis, à l'époque des années 60, l'Union soviétique n'est pas à la hauteur des États-Unis. Pendant la crise de Cuba, l'URSS a 300 armes nucléaires, les États-Unis en ont 2000 ou 3000, donc il y a vraiment une suprématie. Et puis surtout, une époque où les Noirs et les femmes occupent un espace mineur. Et là, il y a vraiment effectivement ce côté viril au sens, je dirais, démodé du terme, effectivement, au sens complètement dépassé du terme, qu'il veut incarner et qui plaît, une fois encore, à ses électeurs qui estiment que c'était le bon temps. C'était le temps où il y avait des bons salaires aux États-Unis, c'était le temps où la classe moyenne augmentait et où quelqu'un qui travaillait pouvait élever une famille, etc. Or, aujourd'hui, c'est le plein emploi aux États-Unis, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de salaire suffisant pour se loger et élever une famille. Donc il joue un peu sur cette nostalgie-là, même si sa politique ne contribue pas à venir effacer les disparités sociales énormes qui existent.
François Clémenceau.
Oui, c'est un président qui veut se donner l'allure ou la posture de celui qui est fort, qui décide seul, qui impose les choses parce que il y a toujours autour de lui, d'ailleurs il faut voir avec quelle sorte de qualificatif il les traite, tous ces gens qui ont été virés quand même depuis 2 ans de la Maison Blanche, comme si c'était des incapables, mais parfois aussi des gens faibles, des gens médiocres, des gens qui on ne peut pas faire confiance, etc. Et en ce sens, il rejoint une bonne partie d'autres hommes forts sur la planète dont il se veut l'égal, le père, celui qui négocie en tête à tête ou en direct avec eux, comme il l'a fait avec Vladimir Poutine à Helsinki en arrachant ce premier sommet en tête à tête avec le président russe, ou avec Kim Jong-un, ou avec d'autres leaders qui sont à la fois puissants au sens économique ou militaire du terme, mais qui sont en même temps des autocrates. Je pense à Erdogan, je pense d'une certaine façon aussi à Netanyahou, dans la façon dont il a de gouverner. Bref, on sent que ce qui l'intéresse, et il l'a reconnu lui-même publiquement par moments, par exemple vis-à-vis de Poutine, à qui il voue une forme d'admiration, il aime être celui qui est fort, un peu comme ce qu'on disait de ces gamins dans les cours de récréation, c'est lui le plus fort, c'est le caïd, c'est le gars qui impose, c'est le gars qui a sa bande et qui organise la vie dans la cour de récréation, sauf que le monde n'est pas une cour de récréation.
Alors il gère les États-Unis comme il gère ses business dans l'immobilier, ou en tout cas c'est comme ça qu'il a pu monter. Alors je le disais tout à l'heure, il a deux pays dans le collimateur, l'Iran et la Chine, et curieusement la Russie qui semble plutôt exonérée. On essaiera de comprendre pourquoi fois dans la deuxième partie de l'émission Géopolitique. Nous retrouvons nos invités Marie-Cécile Nave, François Clémenceau et Pascal Boniface après le journal.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique depuis Nantes, où se tiennent les géopolitiques de Nantes, co-organisées par l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, alors que se tient l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, à quelques semaines des élections de mi-mandat aux États-Unis. Regard sur Donald Trump et le monde, nous retrouvons nos invités. Marie-Cécile Nave, chercheuse associée à l'IRIS et auteure de plusieurs ouvrages, dont Trump, La Revanche de l'Homme Blanc et Géopolitique des États-Unis aux éditions Erol. Pascal Boniface, directeur de l'IRIS et enseignant à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8, auteur de nombreux ouvrages également, dont le grand livre de la géopolitique aux éditions Erol et l'Atlas des relations internationales chez Armand Collin, et François Clémenceau, rédacteur en chef des pages internationales du Journal du Dimanche, éditorialiste de politique étrangère sur Europe 1. Son dernier ouvrage, Hillary Clinton de A à Z, et François Clémenceau qui est par ailleurs auteur du blog Trump Power. Nous l'avons dit à la fin de la première partie de l'émission, la Chine et l'Iran qui sont dans le collimateur de Donald Trump. Curieusement, Pascal Boniface, la Russie semble plutôt exonérée. On l'a vu cette semaine devant le Conseil de sécurité qui se penchait sur la prévention de la prolifération d'armes chimiques, biologiques et nucléaires. Trump a ignoré l'attaque récente en Grande-Bretagne contre un ancien espion russe, l'affaire Skripal. Il a négligé de nommer la Russie comme le principal violeur des sanctions contre la Corée du Nord. Et les mensonges répétés de la Russie pour couvrir l'utilisation par la Syrie d'armes chimiques. De quoi est-il question dans cette relation entre Washington et Moscou ?
C'est un peu un mystère. On dit souvent à Washington qu'il y a deux politiques des États-Unis à l'égard de la Russie. Il y a celle des États-Unis et celle de Trump. Et c'est une politique plutôt hostile de la part des États-Unis comme nation et une politique plutôt favorable de la part de Trump. Mais quand on regarde la réalité, c'est la politique nationale américaine qui s'applique parce que Trump n'obtient rien. Le sommet qu'il a eu à Reykjavik, à Helsinki, pardon, avec Poutine, il n'a obtenu aucun résultat. Et aucun résultat dans sa politique à l'égard de la Russie, puisque non seulement il n'y a pas une amélioration des relations avec Moscou, mais même il y a des sanctions additionnelles par rapport à celles qui existaient lorsqu'il arrivait. Les milieux atlantistes étaient très effrayés de sa volonté de se rapprocher avec la Russie. Il y a plutôt une régression des relations entre l'État américain et l'État russe. Alors, pourquoi il y a cette régression? C'est que simplement, la Russie de Poutine a commis quand même des choses qu'on peut lui reprocher, d'une part, et d'autre part, la structure profonde de la politique étrangère américaine est anti-Moscou. Que Moscou soit la tête de l'Union soviétique. D'ailleurs, Kissinger lui-même disait que même si l'URSS n'avait pas été communiste, après 1945, les États-Unis se seraient opposés à l'Union soviétique parce qu'ils ne voulaient pas qu'un pays contrôle l'ensemble du continent eurasiatique. Et beaucoup se disent c'est quand même plutôt la Chine qu'on devrait se méfier et pas tellement la Russie. La politique américaine, c'est quand même une politique de confrontation avec la Russie et Poutine relève le gant, voire même en rajoute une couche par moment. Pourquoi Trump veut arranger la relation avec la Russie, c'est un mystère. Obama le voulait, mais pour des raisons, disons, de conception stratégique. Et c'était sa politique de réparer les relations des États-Unis avec le monde arabe, la Chine, la Russie. Donc c'était vraiment une logique, mais il n'est pas parvenu. Il avait dit qu'il allait appuyer sur le bouton reset des relations avec la Russie. Ça a plutôt été une dégradation. Pourquoi Trump le veut, on ne le sait pas. Certains disent qu'il est tenu. Alors, il y a le vote, il y a des affaires privées, il y a beaucoup de choses. Mais en tous les cas, il n'est pas parvenu à améliorer les relations russo-américaines.
Marie-Cécile Nave.
Il faut ajouter, je crois bien sûr, je souscris à ce qui vient d'être dit, il faut ajouter l'épée de Damoclès, une des épées de Damoclès, puisqu'il y en a plusieurs sur Trump, mais sans doute la principale aujourd'hui, c'est l'enquête du procureur Mueller sur la campagne de 2016. On sait aujourd'hui que la Russie, alors est-ce que c'est le Kremlin lui-même, est-ce que c'est des puissances privées, ont interféré dans la campagne présidentielle de 2016. Jusqu'où? Et est-ce que l'entourage de Trump et Trump lui-même étaient au courant et ont été acteurs de ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu collusion avec les Russes de la part de l'équipe de Trump? C'est ce que cherche à savoir le procureur Mueller, qui doit rendre ses conclusions bientôt, peut-être avant les élections à demi-mandat le 6 novembre. Et donc, pour Trump, c'est quand même un sujet qui lui cause beaucoup de soucis, parce que c'est potentiellement l'histoire d'un espionnage russe sur les États-Unis. Et donc, du coup, effectivement, comme le disait Pascal Boniface, dans le logiciel des institutions américaines qui sont largement encore héritées de la guerre froide sur la politique étrangère, eh bien ça ne passe pas. Et il ne veut pas donner sans doute l'impression qu'il est trop proche de Moscou, eu égard à cette enquête qui le met en difficulté. C'est une hypothèse qu'on peut faire. C'est sans doute pas le seul élément qui explique la relation avec la Russie aujourd'hui, mais quand même, je pense que ça joue.
Et ce qu'on a vu, François Clémenceau, c'est justement Donald Trump faire un peu diversion cette semaine par rapport à ses soupçons d'ingérence russe dans la campagne d'il y a 2 ans, en accusant les Chinois, cette fois-ci, de possiblement avoir des intentions pour ce qui est des élections à venir du 6 novembre prochain.
Oui, c'est une façon effectivement de contrer tous les résultats de toutes les enquêtes de tous les services de renseignement américains sur l'ingérence russe. Aujourd'hui, ça ne fait plus aucun doute pour ces services de renseignement, comme pour la plupart des élus du Congrès, que le Kremlin a décidé de s'ingérer dans la campagne présidentielle de 2016. Or, Donald Trump ne veut pas et ne peut pas accepter ce verdict-là parce que ça signifierait que son élection n'est pas légitime, qu'il est celui qui a bénéficié d'un vote tellement négatif vis-à-vis d'Hillary Clinton que finalement il aurait presque été élu par défaut contre Hillary Clinton. Dans le même temps, il partage énormément de points communs avec Vladimir Poutine. Alors je ne dis pas que c'est ce qui explique sa politique, qui encore une fois est contrariée par le Congrès, qui vote sanction après sanction pour précisément sanctionner les actes agressifs de la Russie, que ce soit sur l'Ukraine, ou que ce soit sur l'empoisonnement des Skripal, ou que ce soit sur leur politique actuelle dans les Balkans. Il ne peut pas contrer cette politique-là, c'est celle de ses services, c'est celle du Congrès, mais en même temps, il ne veut pas non plus cautionner une trop grande agression vis-à-vis de Vladimir Poutine, qu'il considère une fois de plus comme son égal et avec qui il partage quelques points communs. Lesquels ? D'abord, avoir une Union européenne affaiblie, il pense que c'est bon pour les États-Unis. C'est pas seulement un rival sur le plan commercial, il estime que l'Union européenne aujourd'hui, politiquement, constitue une forme de menace pour les États-Unis. Et ça, il ne peut pas l'accepter, et c'est quelque chose qu'il partage aujourd'hui avec Poutine. Deuxièmement, comme Poutine, il n'aime pas les oppositions. Il n'aime pas l'opposition de ceux qui peuvent le contredire au sein des forums multilatéraux, G7, G20, ONU. Il ne supporte pas l'opposition dans son propre pays, y compris dans son propre parti, et ça on le voit quotidiennement au Congrès. Il ne supporte pas l'opposition de la presse, qu'il qualifie d'ennemi du peuple. Il ne supporte pas l'opposition des syndicats, on l'a vu à travers sa carrière d'homme d'affaires. Bref, voilà un homme qui aime diriger, mais qui aime diriger seul, contre les autres. Et il partage ça de façon très explicite avec un leader comme le président russe.
Pascal Boniface, sa politique étrangère, en tout cas, elle laisse vraiment perplexe à l'étranger. François Clémenceau évoquait l'Union européenne. Une Union européenne affaiblie ferait les affaires de Donald Trump. Quelle attitude avoir en Europe face à ce qui se passe
Les Européens sont partagés parce qu'il y a des pays, notamment ceux qui sont les moins européens d'ailleurs, la Hongrie, la Pologne, l'Italie, qui ne se sentent pas réellement concernés par ce que fait Trump. La Pologne a même proposé de mettre 2 milliards sur la table pour construire une base américaine dont le président polonais Duda a été jusqu'à dire qu'elle pourrait s'appeler Fort Trump. Du temps de l'Union soviétique, il n'y avait pas une base militaire Fort Brejnev ou Fort Staline. C'est quand même aller loin dans la servilité. D'un autre côté, d'autres Européens, les Français, puisqu'on voit que Emmanuel Macron a fait, sans citer une fois son nom, a fait le discours anti-Trump à l'Assemblée générale, cette année comme l'an dernier d'ailleurs. Et même les Allemands qui traditionnellement sont quand même, et notamment les chrétiens démocrates, sont quand même plutôt atlantistes, pro-américains, il y a un véritable traumatisme en Allemagne par rapport à la politique de Trump parce que il vient briser toutes les règles de solidarité atlantique. Et je dirais que c'est un peu comme lorsque Gorbatchev est arrivé au pouvoir, c'était les plus staliniens qui étaient les plus déstabilisés. Aujourd'hui, ce sont les plus atlantistes qui sont les plus déstabilisés par ce que fait Trump, parce qu'il ne donne aucune crédibilité. Mais lui qui veut affaiblir l'Europe pourrait paradoxalement plutôt la renforcer, comme par rapport à la Chine d'ailleurs. Parce que là, l'Europe est au défi. Et on les laisse souvent, mais il y a quand même là une fenêtre d'opportunité que les Européens et que la Commission européenne semblent avoir pris, puisqu'il a été décidé de créer une structure qui puisse permettre de s'opposer aux États-Unis et de permettre aux entreprises qui le voudraient de continuer à commercer avec l'Iran. Et ça, c'est quand même un défi extrêmement important, avec d'ailleurs, on voit, des liens avec la Russie et la Chine. Donc en fait, Trump a une politique de gribouille, parce qu'il est en train de réaliser tout le contraire de ce qu'il dit vouloir faire. Il renforce la Chine en poussant l'Iran et la Russie vers eux. Il renforce l'Europe en forçant les Européens à avoir une politique de sursaut et un peu digne. Et il a renforcé la Corée du Nord qui garde les armes nucléaires tout en empochant le bénéfice d'une aide économique qui va arriver de la part de la Corée du Sud. Donc c'est vraiment une politique de gribouille qui réalise l'exact inverse de ce qu'il prononce.
Alors, politique de gribouille. En tout cas, ce que l'on voit avec le non-respect par Donald Trump des traités internationaux, c'est qu'il y a crise de confiance, perte de crédibilité dans le monde. J'ai cette question, finalement. Est-ce qu'on peut imaginer que les décisions politiques de Trump puissent être influencées par son propre business ? François Clémenceau.
Je crois pas. En tout cas, pas au point que toutes ces décisions seraient influencées par ses activités financières, commerciales ou autres. En revanche, qu'il aborde le monde comme un homme d'affaires, alors qu'il serait peut-être temps de changer de costume et de choisir de temps en temps le costume du diplomate, le costume du militaire, le costume du partenaire des ONG, enfin bref, quelqu'un qui prend la dimension de ce que c'est qu'un chef d'État. Un chef d'État n'est pas un chef d'entreprise. Bien sûr qu'il faut qu'il s'intéresse au monde économique, bien sûr qu'il faut qu'il s'intéresse à la prospérité de son pays, bien sûr qu'il faut qu'il essaye ce qu'il a promis, de faire revenir les entreprises américaines sur le sol américain pour maintenir une forme d'emploi durable dans son propre pays. Mais en ayant, j'allais dire, une telle, pas méconnaissance, mais une telle politique instinctive et à courte vue du monde tel qu'il est, ça peut pas aller très loin. Je comprends pas comment quelqu'un, justement, qui a dirigé une entreprise aussi puissante que la Trump Corporation, ne comprend pas que la mondialisation, c'est les États-Unis qui l'ont faite. Les entreprises américaines, pourquoi elles ont délocalisé en Chine ? Parce que c'était dans leur intérêt, à l'époque. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus. Mais venir essayer de vouloir recontrôler le monde avec des mécanismes aussi binaires que je gagne, tu perds, ou je gagne et tu perds en même temps, comme si c'était uniquement ce fameux art du deal qui devait gouverner la géopolitique des États-Unis, me paraît faible, médiocre et, là encore, dangereux.
Marie-Cécile Nave.
Oui, en fait, Trump découvre que gouverner une démocratie, c'est pas gouverner tout seul. Il s'en doutait, je le suppose, mais il y a quand même des règles institutionnelles à respecter, il y a des contre-pouvoirs à respecter, et ceci continue aussi de fonctionner malgré les désaccords de Trump. On sait qu'une partie de la diplomatie américaine, on en a eu la confirmation dans le livre de Bob Woodward, Fire, qu'une partie de la démocratie, de la diplomatie américaine, eh bien, prenait des décisions contre lui, le contournait, les entreprises ne se plient pas non plus nécessairement au bon vouloir de Trump. Et puis, il y a aussi des États fédérés qui s'opposent très clairement à lui, notamment sur le climat ou sur l'immigration. C'est le cas de la Californie, et qui est une véritable, c'est la sixième puissance économique mondiale, sixième ou septième, ça dépend comment on compte, mais c'est la difficulté pour Trump d'évoluer dans un pays qui a des institutions démocratiques, des contre-pouvoirs. Et on le voit aujourd'hui avec la séparation très stricte des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Il est confronté à ça dans le cas de l'enquête du procureur Mueller, on le disait. Il est en train d'hésiter à limoger le numéro 2 du ministère de la Justice, peut-être aussi son ministre de la Justice, Jeff Sessions. Mais s'il fait ça, il prend le risque d'avoir encore des soupçons et peut-être une enquête sur le fait d'obstruction à la justice dans l'enquête sur la collusion pour la campagne de 2016. Donc non, on ne gouverne pas un pays comme les États-Unis dans le monde, comme on peut être un chef d'entreprise dans un système ultra-pyramidal où on dit vous êtes viré du jour au lendemain à ses collaborateurs.
Alors deux questions pour terminer. Est-ce qu'il y a des points positifs dans les décisions qui ont été prises par Donald Trump jusqu'à présent ? Est-ce que l'Amérique vous semble aujourd'hui un pays isolé ? Pascal Boniface.
Isolé parce que, à part Israël et Arabie Saoudite, et peut-être les Émirats Arabes Unis, il n'y a aucun pays qui soutient la politique américaine. Celui qui en serait le plus proche après, c'est le Japon, mais qui est déstabilisé parce qu'il y a une perte de confiance de la part des Japonais dans la crédibilité de la garantie que les Américains leur accordent. Donc, les Américains n'ont jamais été aussi isolés sur la scène internationale qu'aujourd'hui. Les alliés se détournent d'eux et les rivaux prospèrent sur cette opposition. Est-ce qu'il y a un point positif? Alors, on peut dire qu'il est revenu à récipiscence sur la Corée du Nord. Et que même s'il n'a pas obtenu la dénucléarisation qui ne surviendra pas à vue humaine de la Corée du Nord, au moins il y a un succès en Corée puisqu'il y a une baisse des tensions et qu'il y a la paix entre les deux Corées. Mais ça, c'est plutôt la politique du président sud-coréen qui, de façon extrêmement intelligente, a laissé prendre la vedette au président Kim et au président américain pour dire « moi j'empoche le bénéfice de la réalité et je leur laisse le paraître ».
François Clémenceau.
Non, mais je crois que il est isolé aussi, mais pas tellement à cause des autres, il est isolé à cause de lui-même. Vous vous rappelez de cette fameuse photo qui a été prise au G7 où on le voit avec ses 6 autres partenaires autour de la table et qui le regarde et lui paraît comme une sorte de petit garçon pris en faute, mais il s'est isolé lui-même. C'est pas parce que ses alliés ou parce que ses opposants ont voulu le contraindre à le pousser dans les cordes. C'est lui qui l'a fait d'une certaine façon tout seul, en suscitant de la méfiance de la part de ses plus proches alliés, les Européens. Pascal parlait tout à l'heure du Japon, c'est une évidence. Ensuite, parce que il s'est mis dans une logique où il veut avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière en même temps. Ce qui ne marche pas en politique internationale, c'est impossible, ça n'existe jamais.
C'est-à-dire gagner sur tout, c'est ça.
Le jeu politique de la politique étrangère, c'est un jeu de compromis permanent, où on obtient un peu, mais on fait des concessions un peu. Et regardez ce qui s'est passé aux Nations Unies finalement. Il s'est dit, les États-Unis ont la présidence du Conseil de sécurité, donc je vais présider le Conseil de sécurité et on va faire une séance sur l'Iran et ils vont voir de quel bois je me chauffe. Mais tout le monde lui a dit, si tu fais ça, tout le monde sera contre toi, parce que sur l'Iran, tout le monde est contre toi. Donc ils ont décidé de faire un sujet plus vaste sur la contre-prolifération. Et là, oui, effectivement, ça a été un tout petit peu plus assagi comme débat. Mais sur la Corée du Nord, évidemment, les gens lui sont tombés dessus. C'est très bien ce qui s'est passé, le sommet, l'accalmie, l'apaisement. Mais le problème n'est pas résolu. Le vrai problème, c'est l'arme atomique. Et il n'a pas répondu à ça. Et donc, il s'aperçoit que dans le face-à-face, il obtient peu. Dans le cadre multilatéral, il obtient peu, mais c'est pas par la faute des autres, c'est parce que lui-même s'est mis dans une posture de vouloir diriger tout, de décider de tout, y compris à la Maison-Blanche, y compris dans son pays et y compris à la face du monde.
Marie Sélinave.
Oui, il y a des sujets sur lesquels il n'est absolument pas crédible sur le plan international. On parlait de la dénucléarisation. D'un côté, il pousse à la dénucléarisation de la Corée du Nord et d'un autre côté, il déchire l'accord sur le nucléaire iranien qui a été négocié pendant des années par plusieurs pays. Donc c'est complètement incohérent et c'est quelqu'un à qui les dirigeants étrangers ont du mal à faire confiance. Je vais aller plus loin, les dirigeants autoritaires, voire les dictateurs, ils se jouent de Trump. Je pense que Poutine a très bien compris que Trump n'avait pas la crédibilité qu'il aurait pu lui accorder pendant la campagne, parce que Poutine préférait Trump à Clinton, évidemment. Il voit bien que c'est pas quelqu'un sur qui il peut compter, qui n'est pas fiable. Et il peut continuer à faire ce qu'il a décidé de faire dans le monde, Poutine. Et c'est vrai d'autres dirigeants. Et la Chine est renforcée en Asie, en sortant du traité transpacifique. Eh bien, il donne un plus grand pouvoir, une plus grande aura économique et commerciale à la Chine dans la région. Donc, c'est pas quelqu'un qui inspire confiance, c'est pas quelqu'un qui est vu comme fiable. On va voir effectivement si pendant les 2 prochaines années de son mandat et peut-être son 2e mandat, d'autres configurations régionales se mettent en place, voire bien s'accélèrent alors qu'elles étaient déjà sur les rails. Et puis il y a une échéance importante, c'est le 11 novembre à Paris, puisque Trump vient, il y aura un sommet pour la paix, un forum pour la paix avec 80 pays, on verra ce qu'il en ressortira.
Et alors juste avant, permettez-moi, ce sera vraiment la conclusion en quelques quarts de dixième de seconde, Pascal Boniface, les élections de mi-mandat, vous l'avez dit les uns et les autres, Donald Trump a besoin de satisfaire son électorat comme tout homme politique. Est-ce qu'on peut imaginer que passé le 6 novembre, il y aura un réajustement en politique étrangère?
Oui, sur l'Iran, il n'y aura pas de changement, parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Sur la Chine, ça fait souffrir. Ces entreprises ne souffrent pas parce qu'elles ne sont pas implantées en Chine, mais les entreprises américaines souffrent. Et donc, peut-être que la raison l'emportera, parce que les structures de l'économie américaine lui diront « attention, on ne joue pas avec la Chine ».
François Clémenceau, mais...
Non, les élections de mi-mandat peuvent apporter une majorité démocrate au Congrès. La question est de savoir si Trump sera un président de cohabitation ou s'il sera un président paralysé. Et lui qui avait promis précisément de faire en sorte que Washington marche, s'apercevra que Washington, quand on maltraite ses opposants, ne marche pas.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Marie-Cécile Nave, chercheuse associée à l'IRIS, auteure de plusieurs ouvrages sur les États-Unis, dont Trump, la revanche de l'homme blanc chez Textuel et Géopolitique des États-Unis chez Erol. François Clémenceau, rédacteur en chef des pages international du journal du dimanche et éditorialiste de politique étrangère sur Europe 1. Dernier ouvrage, Hillary Clinton de A à Z aux éditions du Rocher et François Clémenceau qui est par ailleurs auteur du blog Trump Power et Pascal Boniface, directeur de l'IRIS et enseignant à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8, auteur de nombreux ouvrages dont le grand livre de la géopolitique aux éditions Erol et l'Atlas des relations internationales chez Armand Collin. L'IRIS qui co-organise ces géopolitiques de Nantes où nous sommes. Géopolitique était signé Marie-France Chatin et Médard Chablaoui à Nantes, donc Véronique Durand et Nathalie Laporte à Paris. Demain, nous jetterons un regard sur le projet chinois des routes de la soie.